sont les raisons qui nous poussent à croire que tout d'un coup les médias ont des effets forts sur les gens?
Bon Jack, qu'est-ce qu'on a?
Boule rouge, double homicide, un homme et une femme, tueur sexe masculin blanc, la quarantaine.
Sciences Po Ex et les étudiants du master métier de l'information vous présentent Révolution numérique, un podcast réflexif pour mieux comprendre et interroger les enjeux numériques de l'information. Pour cette première saison, l'équipe a décidé de revenir sur ce que certains médias ont qualifié d'affaire George Floyd, pour décrypter, épisode après épisode, ce que nous dit cet événement des usages contemporains du numérique et des débats qu'il suscite.
Ouais les gars, je viens de revoir la vidéo de la mort de George Floyd. Vous vous souvenez, c'est le 25 mai 2020. Je sais pas comment je suis retombé dessus, la vidéo est d'ailleurs super dure à regarder, mais comme j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui s'étaient mobilisés, connus ou pas connus, bah je me suis dit que c'était bien de s'y intéresser. D'ailleurs, vous voyez qui c'est Finn dans Star Wars?
Ouais, vaguement.
Bah, je traînais sur Twitter et je suis tombé sur une vidéo de l'acteur qui l'incarne. C'est un londonien qui s'appelle John Boyega, qui est ultra présent sur les réseaux sociaux et qui dénonce souvent les violences à l'égard des communautés noires. Donc j'ai vu une vidéo de lui qui manifestait après le 25 mai justement, donc ça m'a fait m'intéresser à l'affaire d'un peu plus près.
En même temps, c'est normal, c'est d'actualité.
Clairement, avec ce qui est arrivé à Michel Zecler.
Michel qui?
Tu sais, Michel Zecler, c'est le producteur de musique dont on a vu qu'il s'était fait agresser chez lui par 3 policiers le 27 novembre. Le tout avait été filmé.
Ouais, ça s'est retrouvé sur Loopsider, un média en ligne dédié aux réseaux sociaux.
Ah ouais, ça me revient. D'ailleurs, il avait dit que s'il n'y avait pas eu la vidéo postée sur les réseaux, il serait en prison. C'est dire l'importance des images aujourd'hui, hein.
Ouais, mais parfois, je trouve que les réseaux sociaux prennent trop d'importance. Je sais pas pour vous, j'ai l'impression que si certaines images ou vidéos à caractère violent servent à dénoncer des actes choquants, d'autres sont parfois problématiques.
Ah, totalement d'accord. Souvent, c'est montrer de la violence, voire trop de violence, juste pour buzzer.
Mais alors, vous en pensez quoi de la fabrique d'images violentes sur les réseaux sociaux?
Je sais pas vraiment, mais je me dis que même si une image violente peut servir de preuve pour dénoncer une discrimination, trop d'images violentes, ça risque d'avoir un effet négatif à long terme.
C'est sûr que ça fait s'interroger sur ce qui est diffusable ou non, et sur l'utilité de telles images.
Salut à tous et bienvenue dans ce 8e épisode de Révolution numérique par les étudiants du Sciences Po Ex. Moi, c'est Charles et avec Camille et Roman, on voulait revenir sur les images violentes qui apparaissent et sont relayées massivement sur les réseaux sociaux, comme par exemple la mort de George Floyd ou l'agression de Michel Zecler.
Oui, de nos jours, les images violentes sont monnaie courante. Décapitations, cadavres, scènes de guerre, passages à tabac, autant d'éléments qui permettent de parler d'une fabrique de la violence sur les réseaux sociaux.
Alors nous, on s'est dit que c'était l'occasion de s'interroger sur la diffusion de telles images. Dans quelle mesure une image violente peut-elle servir à alerter sur un fait choquant ou sur une déviance?
Quel est le rôle des réseaux sociaux dans la diffusion de ces images aujourd'hui?
Et surtout, jusqu'à quel point peut-on les diffuser?
Avec la place de plus en plus importante que prennent les réseaux sociaux dans notre consommation d'informations, on voit bien que c'est une question importante. Mais l'utilisation des images pour alerter ne date pas d'hier. Pour moi, les images ont toujours servi à montrer, dénoncer ou à interpeller la communauté internationale sur des questions d'actualité. Mais elles sont autant l'apanage des défenseurs des droits que de ceux qui s'y opposent, comme par exemple les groupes terroristes. En fonction de qui les diffuse, leur usage est ambigu.
En fait, c'est une question qui a toujours existé. Mais depuis quand? Est-ce qu'on peut en marquer le début?
On peut dire que ça existe au moins depuis les débuts de la photographie de presse. Un exemple qui me parle beaucoup et qui vous parlera sûrement aussi est celui de la photographie de la petite fille brûlée au napalm en 1972. La photo avait ici une logique de sensibilisation, au sens où la bonne photographie de presse convoque nos sentiments et nous prend aux tripes. Je trouve aussi que l'enfance est un thème récurrent dans les images de violence. Elle incarne l'innocence et fait de l'enfant la victime absolue. On peut également convoquer d'autres images qui ont ému le monde entier. En 1985, il y a eu l'agonie de 60 heures d'Omera Sanchez en Colombie. Elle a été filmée et photographiée par des médias du monde entier. Plus récemment, vous devez vous en souvenir, l'image du petit garçon Aylen Kurdi, échoué sur la plage en 2015, a agi comme une onde de choc mondiale et avait relancé la question de l'accueil des migrants syriens et la responsabilité de l'Europe dans la crise migratoire.
Ces images captent donc l'attention générale et désignent souvent des responsables. Il y a une dimension qui va au-delà de l'information et, à mon avis, sert à la prise de conscience de l'opinion.
Mais je me demande, en quoi ces images permettent-elles de dénoncer ou alors de désigner des responsables, comme vous l'avez précisé avant ?
Ben, comme le montrent ces exemples qu'on a cités, la diffusion massive des images permet de désigner des responsables. Dans un sens, ça paraît essentiel. On peut appuyer ce constat à partir de l'affaire George Floyd. Dans l'affaire George Floyd, les plaintes et la souffrance de la victime ont été filmées par des passants et ont donné lieu à une vidéo insoutenable de 9 minutes qu'on a tous vue et dans laquelle on entend l'interpellé supplier les policiers et répéter « I can breathe, I can breathe ».
C'est notamment grâce à ces images très vite diffusées sur les réseaux sociaux, puis dans les médias et à l'international, que les policiers responsables de sa mort ont été identifiés, licenciés et inculpés. On peut légitimement dire que ces images permettent non seulement de dénoncer, mais également de rendre justice aux victimes dans des cas graves comme celui-ci. La question se pose des preuves mobilisables si ces images n'étaient pas capturées.
Mais toutes ces images violentes, elles ne servent qu'à dénoncer ?
Je dirais que certaines remplissent aussi un objectif pédagogique. C'est le cas, par exemple, des campagnes choc de l'État pour la sécurité routière ou des images sensibles de poumons cancéreux sur les paquets de cigarettes. Il y a aussi les campagnes du ministère de l'Intérieur pour prévenir les vocations au djihad par la démonstration partielle d'images violentes.
Ok, donc on reste sur quelque chose qui alerte et éveille les consciences. La diffusion de ces images choque et parfois violente est quelque part nécessaire pour toucher les individus. Mais les images violentes se multiplient, je trouve.
Oui, elles se multiplient. D'ailleurs, on se posait la question de ce qu'était vraiment le régime d'abondance des images et à quel moment il était advenu. Du coup, j'ai directement demandé à Guillaume Le Saulnier, qui l'a théorisé, de nous expliquer. Je viens de recevoir son message vocal sur mon répondeur. On peut l'écouter ensemble si vous voulez.
Je m'appelle Itineris.
J'écoute.
Vous avez de nouveaux messages.
Merci pour votre question, que je trouve effectivement très actuelle et très pertinente. On est passé d'un régime de rareté des images qui montrent les violences policières données comme illégitimes à un régime d'abondance. J'entends par là le passage à un régime synoptique, pour reprendre l'expression de Thomas Mathiesen, que là, on vivait dans un régime plutôt panoptique où, en fait, le regard s'exerçait verticalement par un pouvoir donné comme invisible et qui gardait à vue, en quelque sorte, la population pour contrôler, pour discipliner le corps social. Le synoptique, hein, ça désigne plutôt le moment où le plus grand nombre va observer et commenter les moindres faits et gestes des pouvoirs et des institutions. Ça provoque un effet, pourrait-on dire, de documentarisation des violences policières illégitimes, pour reprendre là l'expression de André Gunther. On voit des images de violences policières, elles sont documentées, elles sont d'une certaine façon données comme des preuves visuelles évidentes, irréfutables. Et au-delà de ces vidéos considérées chacune, je pense qu'un point important, c'est un effet d'agrégation, d'accumulation, de répétition qui en soi fait événement, une espèce de métadiscours, hein, qui est doté de sa propre efficacité. Alors, il y a un effet de démocratisation des smartphones, hein, donné comme l'arme des désarmés par David Dufresne, le journaliste, mais il faudrait s'intéresser aussi à des paramètres qui dépassent la technologie proprement dite. Déjà, une extension de la contre-démocratie, c'est-à-dire une extension de l'exercice de la vigilance, de la critique, du contre-pouvoir, une sensibilité accrue en toute hypothèse à la violence en général et à la violence d'État en particulier, une diffusion en France du cop-watching, donc une pratique militante importée des pays anglo-saxons où on va filmer les interventions policières, et enfin les transformations du champ journalistique avec de plus en plus des affaires, des scandales qui réfractent l'indignation des citoyens.
Et les réseaux sociaux dans tout ça ?
Interrogé suite à l'assassinat de Samuel Paty, Gabriel Attal a déclaré ceci.
Et les réseaux sociaux ont une responsabilité, et en l'occurrence dans cette affaire, et oui, on doit arriver à mieux les encadrer.
On peut s'arrêter sur le fait que les réseaux sociaux sont devenus un hyper outil de diffusion des images de violence, ou une sorte de nouvelle place publique, et concentrent à eux seuls l'essentiel de la médiatisation de ces images violentes. Il faut d'abord noter leur dimension pervasive, c'est-à-dire qu'ils s'immiscent dans la vie publique et dans les moments privés, et sont omniprésents, même dans des moments d'extrême violence ou des moments très privés de la vie. Vous vous souvenez peut-être d'Alain Coq, qui militait pour une fin de vie digne, parce qu'il était atteint d'une maladie incurable. Pour sensibiliser les gens, il a essayé de diffuser son agonie en direct sur les réseaux. Mais je crois bien me souvenir que Facebook avait décidé de bloquer la diffusion.
Il faut aussi penser le caractère instantané des réseaux sociaux et la possibilité qu'ils donnent à chacun de s'adresser au monde entier. Aujourd'hui, avec les smartphones, la prise d'image donne des potentialités de diffusion qu'on n'a jamais connues et qu'on aura probablement du mal à contrôler. En deux clics, je peux par exemple décider de voir une photo de l'intérieur du Bataclan ou visionner des décapitations perpétrées par l'État islamique. Cela fait des réseaux sociaux, des médias alternatifs où les images de violence circulent sans entrave. Ce caractère instantané se retrouve aussi dans l'affaire George Floyd, dont la mort a été filmée et diffusée en direct sur Facebook Live par une passante. On pouvait y assister en temps réel, donnant, je cite Thomas Holt, le gros plan d'un film dans lequel l'indifférence désinvolte de l'assassin souligne la brutalité de son action.
Et oui, je trouve qu'on assiste vraiment à une forme de spectacularisation de la violence sur les réseaux sociaux.
Mais alors, qu'est-ce que cette centralité des réseaux sociaux nous dit sur l'évolution du modèle d'information et de communication ?
Le fait le plus important à noter est celui de l'évolution de ce modèle de communication. Celui qui préexistait à Internet était pyramidal, c'est-à-dire qu'un petit nombre de producteurs d'informations s'adressait à une multitude de lecteurs, d'auditeurs ou téléspectateurs. Aujourd'hui, ce modèle n'est plus transposable aux réseaux sociaux et Internet qui ont vu exploser les contenus générés par les utilisateurs eux-mêmes.
Attention, certaines images de ce programme peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes.
Face à tout ça, jusqu'à quel point peut-on dire qu'une image est diffusable selon vous ?
Bah, c'est compliqué, parce que la vision des images violentes peut être trop difficile à supporter, ce qui remet en question leur diffusion. Elles participent à la terreur qui circule dans les communautés noires, qui subissent une agression supplémentaire, leur rappelant qu'on peut aujourd'hui mourir dans nos sociétés sous les coups de la police. Je pense que nous n'avons pas besoin de voir les images, ni même de participer au supplice des individus pour croire les victimes. Il y a dans ces images une banalisation de la souffrance noire qui questionne la circulation malsaine d'images de cette ampleur dans nos sociétés.
C'était This is America, un tube paru en mai 2018 et que l'on doit au chanteur Childish Gambino. Nous, on aime cette chanson, et pour plusieurs raisons. La première, c'est que le clip est fait pour donner un sentiment de malaise par ce basculement permanent de joie à violence. Mais aussi parce qu'au second plan, les images de violence se multiplient au fil du clip, avec par exemple des émeutes qui éclatent, des policiers qui pourchassent des jeunes ou des voitures brûlées. Il y a des personnes qui chantent « We just want to party » et qui sont directement stoppées par le chanteur qui leur tire dessus. La vidéo est réalisée pour donner l'impression que les tirs sont vrais. À titre d'exemple, à 1057, le chanteur prétend tirer sur une troupe de gospel. Et on y croit même si on sait que c'est de la fiction. C'est criant de réalité, mais ça reste une fiction. Donc on cherche à choquer et à alerter sur une triste réalité par une démonstration fictionnelle de la violence. Aussi, on peut visionner le clip sans avoir à détourner les yeux, et y voir la critique du contraste qui existe entre la perception du traitement des Afro-Américains et la réalité de leur quotidien violent. Childish Gambino chante dans un deuxième temps « This is America, don't catch you snippin' up ». En français, « C'est l'Amérique, elle te prend par surprise » et vient dénoncer les violences sur la communauté noire. Le clip vient apporter une dimension plus forte à la dénonciation, dans le sens où l'attitude du chanteur, et notamment ses expressions faciales, sont vachement intéressantes, qui viennent souligner la binarité de cette chanson. Il commence par être enjoué, danser sa joie, sourit, puis d'un coup, s'arrête, son visage se ferme, il tire avec une arme et déclare This is
America. Ah ouais, puissante cette chanson. Ça vaut vraiment le coup d'aller voir le clip. Aujourd'hui, la violence est omniprésente sur nos écrans, à travers notamment des films, des jeux vidéo, ou comme nous venons de le voir, des clips. À l'inverse, cette violence n'est pas visible dans les médias traditionnels. On ne veut pas montrer la violence ordinaire.
Ah ouais ? Moi, j'ai l'impression de voir beaucoup d'images de violence dans l'espace public.
Pourtant, selon Emmanuel Taïeb, professeur de sciences politiques à l'IEP de Lyon, notre regard contemporain se dérobe face aux images directes de violence. Pour lui, on ne peut aujourd'hui assimiler la violence que via des substituts fictionnels. Notre espace public est devenu aseptisé. C'est d'ailleurs parce que notre regard contemporain s'est déshabitué de la violence que sa présence devient absolument intolérable. Notons aussi qu'il y a une distinction à faire qui a été introduite par François Jost, professeur en sciences de l'information et de la communication, entre les images violentes et les images de violence.
Ah ouais, je ne savais pas ça. Alors, tu peux m'expliquer la différence entre les deux parce que je ne suis pas sûr de bien comprendre.
En fait, les images violentes montrent la violence directement, alors que les images de violence laissent supposer une violence qui n'est pas vraiment visible. On observe ainsi que ces images de violence sont plus facilement diffusées dans les médias, alors que les images violentes sont, elles, cachées et beaucoup moins diffusées à part sur les réseaux sociaux.
Moi, j'entends souvent le terme de dignité dans ces cas-là. Est-ce que c'est un argument pour ne pas montrer la violence ?
Les deux positions sont défendables. On peut dénoncer en montrant l'horreur, mais il ne faut pas non plus donner cette horreur en spectacle. Dans le cas de George Floyd, par exemple, il y a une forme de double peine qui a été infligée à la victime, puisque cette circulation massive va à l'encontre du respect de son intégrité et de sa mémoire. Il y a donc une ambiguïté assez importante dans la diffusion de ces images. Elles sont à la fois un moyen de conscientisation de l'opinion publique, mais elles peuvent également porter atteinte à la dignité des personnes exposées. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ouais, très bien. Mais vous ne pensez pas qu'à vouloir cacher ou occulter ces images, on risque de développer des thèses complotistes ?
C'est vrai que dans un univers visuel privé d'images de violence, son apparition est immédiatement mise à distance et refusée. Le choix opéré par les médias dits officiels de ne pas montrer la violence peut alors faire naître une lecture complotiste.
Et t'as des exemples de cas où cette technique a contribué à créer des théories du complot ?
Oui, on peut prendre l'exemple de l'absence d'images des corps des victimes du 11 septembre. Ou encore des critiques à l'égard des États-Unis qui ne voudraient pas paraître faibles en exposant leur mort. Il n'est pas sûr pourtant qu'il y ait bien quelque chose à voir dans les ruines des tours jumelles.
Ah oui, un autre exemple qui illustre bien ça aussi, j'en ai un. En 2014, la vidéo de la décapitation du journaliste James Foley par Daesh n'avait pas été diffusée par les médias, pour des raisons évidentes, mais du coup sur les réseaux sociaux, certains ont dénoncé l'info en disant que c'était une mise en scène. Ça a fait naître l'idée que Foley n'était pas vraiment mort et que ces images étaient destinées à dénoncer l'État islamique.
Donc si je résume, on peut dire qu'il est important que certaines images soient montrées pour identifier les responsables ou dans un objectif parfois pédagogique. Mais ce qui peut être fait par les médias n'existe pas encore sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les médias ont la volonté de ne pas faire le jeu des producteurs des images ni d'aller vers le sensationnalisme. Pour informer, ils ne montreront soit que le début de la vidéo, soit seulement une image arrêtée.
Par contre, sur les réseaux sociaux, le fait de voir ces images suppose la plupart du temps une démarche volontaire du spectateur, qui pense qu'il pourra en supporter la violence.
Mais leur diffusion massive pose des questions éthiques et psychologiques importantes. C'est notamment, j'y pense, le cas pour les petites mains de la modération. Ces modérateurs qui vérifient le contenu des sites et sont chargés de supprimer tout ce qui enfreint les règles, eux sont confrontés à l'exposition quotidienne des images violentes qui sont dures à supporter psychologiquement.
Écoute, je n'aime pas te faire la morale, mais je vais te donner un conseil qui te servira à jamais.
Pour approfondir, on aimerait vous recommander l'écoute du podcast de Kif Taras, intitulé « Violence policière, le poids des images », qui aborde la multiplication des images de violence policière et montre que selon l'expérience raciale de chacun et chacune, les images ne sont pas toujours perçues de la même manière. On l'a trouvé très inspirant et son écoute pourra compléter nos propos.
On vous propose également d'aller voir les photos de l'exposition « Paris 1968 » du photographe Gilles Caron. Alors elles datent un peu, mais les images sont fortes et reviennent sur les insurrections de mai 68, les affrontements entre citoyens et forces de l'ordre, et la guerre du Biafra qui a eu lieu au même moment. On vous met quelques liens en description.
Merci à tous de nous avoir suivis pour ce 8e épisode de Révolution numérique. On espère que ça vous a plu.
On vous invite maintenant à aller écouter le dernier épisode animé par Younes et Sophie qui vous parleront de modération et de neutralité des réseaux sociaux, un numéro qui promet d'être très intéressant. Protect me. I'm a young black man. Trouble.